La dernière fois, on a travaillé ensemble sur la nature de l'homme. On a travaillé sur trois mots, corps, âme, esprit, et on a regardé dans les textes bibliques le sens que ces trois mots avaient dans les Écritures. La question du corps, elle est fort simple. On avait vu que Dieu avait créé le corps de la poussière de la terre. On était parti du texte de Genèse 2, 7, où il nous était dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et qu'il devint une âme vivante. On a surtout travaillé sur le mot esprit et sur le mot âme pour en comprendre l'essence. Pour en comprendre les deux sens essentiels dans les Écritures. Tout d'abord, esprit, ruach en hébreu, pneuma en grec, c'est le souffle de vie dont il était question dans Genèse 2, 7. Et on avait vu qu'il y avait un sens premier, celui de Genèse où il est question d'un élément constitutif de l'être, c'est-à-dire le premier élément c'est le corps, le deuxième élément c'est l'esprit. Donc l'esprit est là présenté comme un des éléments constitutifs de la personne humaine, et l'âme c'est le résultat des deux. On avait vu aussi que et le mot esprit et le mot âme ont un sens second, et que tous les deux indiquent les sentiments profonds, la vie intérieure, ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Et dans ce sens-là, on était arrivé à la conclusion que esprit et âme sont deux choses totalement différentes dans la compréhension biblique, mais dans un sens second, ces deux mots peuvent être employés de façon interchangeable pour désigner les sentiments profonds que nous pouvons avoir. Ça va jusque-là? Donc, très important à retenir, dans les Écritures, l'être humain est constitué de deux éléments, le corps et le souffle de vie, esprit. Et lorsque ces deux éléments sont ensemble, ils constituent l'âme. Ce qui nous avait amené à dire, l'être humain n'a pas une âme, il est une âme. Et lorsque ces deux éléments se dissocient, lorsque l'esprit, le souffle, quitte le corps, il n'y a plus d'âme. On avait pris l'histoire de la boîte, vous vous en souvenez. Maintenant, je vous ai dit en terminant la dernière fois qu'on allait regarder un texte qui apparemment dit le contraire. On va regarder ce texte parce que c'est un des textes qui est souvent utilisé pour dire que dans la Bible, l'homme est constitué de trois morceaux. Mais on va regarder ce texte d'un petit peu plus près et on va appliquer les principes qu'on avait vus au départ en ce qui concerne l'étude de la Bible, c'est-à-dire de regarder le contexte pour savoir quel est le sens réel de ce passage. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23?
Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci. Pour l'instant, on en est là. Corps plus esprit égale âme. Ça, c'est les matériaux de construction. Et le résultat, c'est âme. Maintenant, le texte qu'on a lu nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit ce texte, on n'a pas la même chose. On a l'impression en lisant ce texte que l'être humain est constitué de trois morceaux, l'esprit, l'âme et le corps. Ce qu'on entend d'ailleurs souvent, la plupart du temps. Alors, comment est-ce que nous allons réconcilier ce texte-là avec tous les autres que nous avons lus la dernière fois et qui nous disent l'être humain est constitué de deux morceaux? Le corps et l'esprit, le tout constituant l'âme. Comment nous allons faire? C'est très simple. Il suffit de prendre le texte pour ce qu'il est. De quoi est-il question dans ce texte? Quel est le sujet? Il est question de la sanctification. Et quand vous regardez le contexte, on va reculer un petit peu en arrière, vous allez voir de quoi l'apôtre Paul parle ici. Par exemple, chapitre 4, Je vais vous lire le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Il est question de la conduite, comment on vit. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées, etc. Un petit peu plus loin, il dit, et on reverra ce texte-là, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Un peu plus loin, il va parler du retour de Jésus. Au verset 16, il est question du retour de Jésus. Le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Au chapitre 5, au début, il est dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté ». Vous vous rendez compte que dans ce chapitre-là, l'apôtre Paul est en train de dire « Lorsque le Christ va revenir, il faut que vous soyez prêts. Comment est-ce que vous allez vous préparer au retour de Jésus ? Par la sanctification. On va définir ça plus tard. Pour résumer, dans votre esprit, prenez sanctification comme équivalent de transformation de mon être. Sanctification égale transformation. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, pour être prêt au retour de Jésus, il faut que la sanctification ait fait son effet en vous et que vous soyez transformés. Et il le dit au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Autrement dit, l'apôtre Paul ici n'est pas en train de parler de la construction de l'être humain, il n'est pas en train de parler de la nature de l'être humain comme on l'a fait la dernière fois, il est en train de parler des éléments de la vie humaine qui ont besoin d'être transformés. Et dans ce sens-là, il va dire que tout votre être entier, soit touché par l'action transformatrice de Dieu. Le problème, c'est qu'il va utiliser des mots que nous avons déjà vus la dernière fois dans un autre sens. Et il va dire, il faut que votre être entier soit transformé, l'esprit, l'âme, le corps. On pourrait dire, il faut que toute votre personne soit transformée dans le domaine intellectuel, dans le domaine spirituel et psychique, dans le domaine physique. Alors, mon dessin ici, je le termine. Ici, dans la colonne de gauche, vous avez les éléments constructeurs de l'être humain, le corps et l'esprit. Quand ils sont ensemble, colonne du milieu, vous avez le résultat, l'âme ou l'être humain. Mais l'âme ou l'être humain va s'exprimer dans trois dimensions différentes. Une dimension physique, une dimension intellectuelle, une dimension spirituelle. L'apôtre Paul va utiliser pour ces dimensions-là les mots qu'on a déjà vus avant. Et c'est la raison pour laquelle on est troublé, parce que ces mêmes mots sont utilisés dans le texte biblique pour désigner des choses différentes. L'apôtre Paul, dans ce texte, n'est pas en train de parler de la création de l'être humain. Il n'est pas en train de parler de la construction de l'être humain. Il n'est pas en train de parler de Genèse, lorsque Dieu a dit « Créons l'homme à notre image ». Il est en train de parler de la transformation de notre caractère, de notre vie, pour que nous soyons prêts quand Jésus revient. La sanctification. Et il dit « Veillez à ce qu'il n'y ait aucun domaine de votre être où la sanctification ou la transformation de Dieu n'a pas fait son œuvre. Il faut que vous soyez transformés dans le domaine physique. Et Dieu va nous montrer des lois physiques qu'il faut respecter aussi. Dieu veut que nous soyons aussi transformés dans notre pensée, dans notre manière de penser, de réfléchir. Et il veut aussi que notre vie spirituelle soit renouvelée, restaurée, changée, que notre relation avec lui soit construite sur des bases de vérité et de pureté. L'apôtre Paul aurait pu rajouter aussi la dimension sociale, mais il en parle dans beaucoup d'autres endroits, il ne l'a pas rajouté là. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de contredire dans ce texte ce que nous avons dit la dernière fois. Il parle tout simplement d'autre chose en employant des mots semblables.
Le cœur est associé à l'âme, ou à l'esprit?
Dans le texte biblique, le cœur est généralement associé à la pensée. Nous, dans notre esprit à nous, le cœur, c'est d'abord les sentiments. Dans la mentalité biblique, surtout de l'Ancien Testament, le cœur, c'est d'abord les pensées. Prenez par exemple Proverbe 4, verset 23. Il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Source de la vie, garde tes pensées correctes pour que ta vie marche droite. C'est ça l'idée. On peut regarder aussi Psaume 26, verset 2. Psaume 26, verset 2. Et on a là les deux éléments dans la mentalité de l'Ancien Testament.
Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur.
Merci. Les Hébreux associaient les notions abstraites à des parties du corps, à des choses concrètes. Nous l'avons fait aussi, mais nous l'avons fait différemment qu'eux. Quand nous pensons aux sentiments, nous pensons au cœur. Quand nous parlons de la pensée, c'est la tête. Les Hébreux font différemment. Ils vont associer les sentiments avec les reins. Et c'est pourquoi le texte dit « Fais passer au creuset mes reins », c'est-à-dire mes sentiments, mes émotions, et mon cœur, mes pensées. Vous retrouvez souvent cette expression « Saint-Terrain », c'est-à-dire « Mets une ceinture ». Saint-Terrain comme un vaillant homme. C'est-à-dire, on traduit cette expression Saint-Terrain, prends courage. C'est cette idée d'être des sentiments fermes, de courage, etc. Autrement dit, le texte de l'apôtre Paul ici, qui est souvent pris pour décrire l'être humain en trois morceaux, ne décrit pas l'être humain en trois morceaux. Il est en train de parler de différentes dimensions par lesquelles l'être humain s'exprime et qui doivent être touchés par la grâce transformatrice de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous lire deux citations. La première est d'un théologien protestant, la deuxième d'un théologien catholique. Vous allez vous rendre compte que l'un et l'autre ne sont pas en harmonie avec ce que leur Église enseigne généralement. La première citation, c'est de Mel Cullane, qui est un théologien protestant. Plus que le corps, l'âme ne désigne pas une partie de l'homme, mais l'homme tout entier, dans une certaine manifestation de lui-même. C'est plus précisément comme dans l'Ancien Testament, l'homme dans ses manifestations d'être vivant. L'âme, c'est la vie humaine, en tant que vie individuelle d'un objet conscient et volontaire. C'est exactement ce qu'on a découvert. Maintenant, le théologien catholique Charles Ehlinger écrit ceci. Jésus emploie parfois le mot « âme ». Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10, 28. Mais dans sa bouche, le terme « âme » ne signifie pas un esprit qui plane dans les hauteurs, affranchi de la matière. Il désigne plutôt, comme dans de nombreux passages de la Bible, la vie, le noyau vivant tout entier, corps et esprit. Le langage biblique ignore tout d'une âme incorporelle. En fonction de ce qu'on a vu là, j'aimerais avancer maintenant et prendre un certain nombre de textes en rapport avec la mort. Ce que nous avons vu jusque-là est destiné à nous faire comprendre la question de la mort du point de vue biblique. Et on va regarder quelques textes sur ce sujet-là plus directement maintenant. Alors, la dernière fois, on a fait référence à un ou deux textes que je vais laisser de côté parce qu'on les a déjà lus. Le texte de Genèse, chapitre 3, où Dieu disait, voilà, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. D'où tu as été pris, indiquant par là que l'homme va mourir. Et puis ce texte de Romains 6, 23, où il nous est dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et je vous avais déjà mentionné qu'il ne s'agit pas de la mort que nous connaissons, il s'agit de mourir de mort, comme il est question dans Genèse, lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève « Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort », c'est-à-dire destruction totale. Donc nous sommes confrontés à ce problème de la mort, Tout le monde est dans le même bateau, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, homme, femme, peu importe. On est tous confrontés au problème de la mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Alors, j'aimerais juste prendre un ou deux textes qui nous parlent de la fragilité de l'être humain. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est simplement peut-être pour aller dans le sens contraire du sentiment que l'on peut avoir lorsqu'on est vivant. Ésaïe chapitre 40, le verset 6 à 8.
Une voix interpelle, va, proclame un message, une autre lui répond, que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours.
Merci. Vous savez, quand on est vivant et en bonne santé, on a l'impression que ça va durer toujours, surtout quand on a 20 ans. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a une réalité à laquelle on est confronté. Et la Bible ne cesse de nous rappeler que nous sommes éphémères. D'autres expressions dans la Bible nous disent « on est étrangers et voyageurs sur la terre ». Nous sommes constamment remis devant la réalité de notre état passager, éphémère et transitoire. Ce qui veut dire que, avant d'arriver devant cette échéance, il faut savoir ce qu'on veut faire avec. Un autre passage dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 13 et 14.
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Merci. La Bible nous rappelle que on n'est pas grand-chose. Mais seulement cette situation de l'homme mortel, elle ne nous convient pas, mais il y a quelqu'un à qui elle convient encore moins, c'est à Dieu, qui nous a créés et qui ne veut pas que nous mourions. Et en avançant plus loin, on se rendra compte de tout ce que Dieu a fait pour que nous ne soyons pas confrontés à cette mort-là. Et ce qu'il a fait nous donne une dimension de la valeur que nous avons justement à ses yeux. Je mentionne ces textes-là simplement pour nous rappeler où nous en sommes. Hein.
La fragilité de l'être humain.
Voilà, c'est ça. La fragilité de l'être humain. Maintenant, lorsqu'on parle de la mort, la Bible associe la mort à une notion extrêmement importante qu'on va voir dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, il nous est raconté que Jésus est en voyage avec ses disciples et on l'informe que Lazare, son ami, frère de Marthe et Marie, est très malade. Et ses sœurs appellent au secours en disant « Viens vite pour le guérir ». Jésus ne va pas bouger, mais il va parler à ses disciples. Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 11 à 14.
Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort. »
Merci. Jésus est en train de parler de Lazare, et il dit, « Il dort, il s'est endormi. » Les disciples vont prendre ça au premier degré et dire, « C'est parfait, s'il dort, c'est tranquille, il est en voie de guérison, comme dit le texte. » Et Jésus leur dit, « Non, non, vous n'avez pas compris, les gars. Lazare est mort. » Pour Jésus, la mort de Lazare ou la mort telle que nous la connaissons, c'est un sommeil. Quand on dit sommeil, qu'est-ce qu'on sous-entend? On sous-entend le réveil. Le réveil, ce sera la notion de résurrection, dont on va parler un petit peu plus tard. Jésus, lorsqu'il parle de la mort, il va associer la mort au sommeil. Et Jésus n'a pas inventé ça, on retrouve ça dans différentes parties des Écritures. On va reprendre ce texte de 1 Thessaloniciens 4 où on était tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14.
Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Merci. Dans ce texte, il y a plusieurs fois la même expression, ceux qui dorment, et on la retrouve en fait au verset 15 aussi, ceux qui dorment. Et dans les versets suivants, verset 16 par exemple,
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Merci. Il parle de ceux qui dorment et puis ensuite il leur dit, voilà, il y a un moment où ils vont ressusciter. C'est la raison pour laquelle il est question du sommeil, parce qu'il y a la résurrection derrière. Un autre passage dans le livre de Job au chapitre 14. Job chapitre 14, versets 10 à 12.
Mais lorsque l'homme meurt, il reste inanimé. Quand l'être humain expire, où donc est-il alors? Les rivières tarissent et risquent de sécher, et l'homme, quand il meurt, ne se relève plus. Jusqu'à ce que le ciel s'éclipse, il ne se réveillera pas. Il ne sortira pas de son dernier sommeil.
Merci. Dans le livre de Job, il nous est dit ici, et je vous rappelle que le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible, et c'est Job qui parle. Ainsi l'homme se couche, il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. On apprend par conséquent que lorsque on s'endort dans le sommeil de la mort, c'est un sommeil qui va durer tant que les cieux subsisteront, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde.
Ça, c'est pas évident de dire un sommeil, puis tu vas être dans un sommeil, ils peuvent rêver, mais non. Mais quand on dort, on dirait qu'on se rend compte qu'on dort un peu. Hein? Mais quand on se fait opérer, ça fait pouf, je me suis réveillée, je suis fini. C'est particulier. Ouais, c'était surtout la rapidité, endormi, réveillé. Ouais.
Mais c'est juste, du temps de Jésus, il connaissait rien d'autre. Ouais. Nous, aujourd'hui, quand on parle d'opération, quand on parle d'anesthésie, on parle d'un sommeil qui nous aide à comprendre beaucoup mieux ce qu'est le sommeil de la mort dont la Bible parle. Quand on est anesthésié pour une opération, on n'a aucune notion du temps qui passe, on ne rêve pas, et quand on se réveille, on n'a aucune idée de combien de temps on a dormi. C'est exactement pareil. C'est probablement ce qu'on a aujourd'hui qui nous aide le mieux à comprendre ce qui se passe dans la mort. Bien que ce ne soit pas exactement la même chose, mais ça nous aide à comprendre davantage que quand on parle de sommeil, effectivement. La mort est un sommeil. On a vu quelques textes, et on va en voir encore, qui nous apprennent que ce sommeil va durer jusqu'à la fin du monde, à la fin des temps. Ce qui déjà nous laisse comprendre que pendant le sommeil, il n'y a rien qui se passe. Alors maintenant, on avait dit tout à l'heure que la mort, c'est ce moment où l'esprit et le corps se dissocient de nouveau. À la création, on avait vu dans Genèse 2:7 que Dieu crée le corps de la poussière de la terre et qu'il souffle dans ses narines le souffle de vie. Quand le souffle se sépare de nouveau du corps, c'est la mort. Mais la question est de savoir ce souffle, qu'est-ce qui lui arrive? On va lire les textes qui nous disent ce qui se passe avec le souffle de vie. Ecclésiaste chapitre 12. Dans Ecclésiaste chapitre 12, on a un texte poétique qui raconte le développement de la vie et qui, au travers de symboles, exprime le processus de vieillissement. Il parle par exemple des fenêtres qui se ferment sur la rue, donc les oreilles qui n'entendent plus. Il parle des gardiens qui tremblent, les mains qui se mettent à trembler. Différentes expressions poétiques qui traduisent la perte des facultés au fur et à mesure du vieillissement et qui finissent nécessairement par la mort, avec là encore un certain nombre d'expressions poétiques. Et on va lire, si vous voulez bien, les versets 8 et 9. Ecclésiaste chapitre 12, versets 8 et 9.
Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Merci. Plusieurs expressions poétiques qui parlent de la mort. Avant que la poussière retourne à la terre, le corps, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, on apprend dans ce texte que le corps retourne à la terre, ça c'est pas difficile, on le comprend, on peut le constater, et que l'esprit, le souffle de Dieu, le souffle de vie, retourne à Dieu qui l'a donné. Ça n'a rien de surprenant parce que Dieu en est propriétaire. Il retourne à Dieu. Il y a donc bien quelque chose qui retourne à Dieu. Mais comment? Alors, revenez en arrière au chapitre 9, toujours dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Et on va lire les versets 5 et 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6.
Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Merci. Il nous dit, voilà, les morts ne savent rien. Il y a tout qui disparaît. Et vous avez remarqué, le texte est clair, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Autrement dit, quand on est mort, il n'y a plus de contact avec les vivants sous aucune forme. Et ce, jusqu'à la fin. Là, on a un texte qui est clair et qui nous dit qu'il n'y a pas de vie pendant la mort. Je crois à une vie après la mort. Je ne crois pas à une vie pendant la mort. Plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a donc aucun contact avec les morts. Un tout petit peu plus loin, dans Ecclésiaste 9, au verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Autrement dit, le texte biblique tire là même la conclusion en disant « N'imagine pas qu'il y a quelque part une seconde chance. Si tu as quelque chose à faire, c'est maintenant. Parce que la seconde chance, c'est maintenant. Dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a rien. Donc tu ne pourras rien faire à ce moment-là. » On va encore prendre quelques textes là-dessus. On va regarder Job chapitre 7, le verset 9 et 10.
Tout comme une nuée qui se dissipe et passe, l'homme va dans la tombe pour n'en plus remonter. Il ne reviendra plus dans sa maison et sa demeure même ne le reconnaîtra plus.
Merci. Vous vous rendez compte là que ce texte est très clair et dit « Lorsque quelqu'un est mort, n'imaginez pas qu'il va revenir dans sa maison sous une forme ou sous une autre. Pas de fantôme. N'imaginez pas qu'on va pouvoir discuter avec lui. N'imaginez pas qu'il est dans un état de conscience où lui sait où il est et il va revenir dans un lieu qu'il connaît. » Le texte nous disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de pensée. Il n'y a rien dans le sommeil de la mort. Donc tous ceux qui pensent que leur défunt est revenu dans leur maison pour leur parler ou pour les encourager, etc., vont à l'encontre de ce que la Bible dit. Ce sont des textes qui nous indiquent clairement que le sommeil de la mort est un sommeil où il n'y a rien qui se passe. Par conséquent, pas de communication entre les morts et les vivants.
Moïse, quand il y a eu l'apparition, il est décédé. Quand il a été avec Jésus, là, transfiguration, Moïse est revenu. Y a-tu été ressuscité?
Alors, la situation de Moïse et de Élie est une situation particulière. Il y a aussi Enoch dans cette situation-là. En effet, Élie et Moïse sont apparus à Jésus sur la montagne de la transfiguration, comme on l'appelle dans le Nouveau Testament, juste avant la crucifixion, ce qui nous montre bien que et Moïse et Élie sont au ciel. Alors, on apprend dans les Écritures que Moïse est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a été pris, et on apprend que Élie a été pris directement sans passer par la mort. Ce qui veut dire que juste avant que Jésus ne meure sur la croix, deux personnages sont venus l'encourager. Élie est venu comme représentant de tous ceux qui seront vivants quand Jésus va revenir et qui ne passeront pas par la mort, et Moïse comme représentant de tous ceux qui sont morts, qui attendent le retour de Jésus dans la mort et qui ressusciteront lorsque Jésus reviendra. Ces deux hommes-là viennent encourager Jésus avant qu'il meure, et vous pouvez facilement imaginer ce qu'ils disent. L'un et l'autre représentent tous les sauvés de tous les temps, soit passés par la mort, soit pas passés par la mort. Et ils sont en train de dire à Jésus, « Regarde, nous sommes sauvés, nous sommes au ciel, nous avons déjà reçu comme prémisse le salut. Tu vas à la victoire, tu vas pas à l'échec. » Tu vas à la victoire. Et la victoire que tu vas remporter dans quelques heures garantit le fait que nous sommes déjà sauvés. On comprend alors maintenant le texte qu'on avait déjà vu la dernière fois par rapport à Jésus. Luc chapitre 23, verset 46. Luc chapitre 23, verset 46.
Alors Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut.
Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est exactement ce qu'on a vu dans les textes précédents. Il sent qu'il est en train de mourir. Et il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mon souffle. Jésus n'est pas en train de dire, mon âme commence à se promener et retourne je ne sais où. Non. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains, je vais mourir, mais il n'y a plus rien, c'est le sommeil de la mort. L'esprit retourne à Dieu parce qu'il en est propriétaire. Personne d'autre ne peut donner le souffle de vie, mais le souffle retourne à Dieu totalement et définitivement inconscient. Autrement dit, tous ceux qui sont morts depuis le début et qui sont candidats pour la vie éternelle ne sont pas au paradis. Où sont-ils? Ils sont dans leur tombe. Prenez un texte dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 39 et 40. Alors, quelques mots d'explication. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est un chapitre particulier dans lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul vraisemblablement, est en train de reprendre les uns après les autres les grands héros de la foi. Il va parler de Abel, de Hénoch, de Noé, de Abraham, de Sarah. Il va parler ensuite de Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, etc., etc. Il va parler de tous ces gens qui, pour les Juifs, sont des géants de la foi, des gens qui, de toute évidence, sont sauvés, des gens qui ont reçu le salut. Et à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul va parler d'eux et va dire, versets 39 et 40,
tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.
Merci. L'apôtre Paul est en train de dire, tous ces gens-là, qui de toute évidence, par leur foi, par leur relation avec Dieu, sont destinés à la vie éternelle, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? Le texte le dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est quoi ce qu'il a en vue de meilleur? Afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Autrement dit, on n'arrive pas au paradis à la queue leu-leu, on y arrive tous en même temps, à la fin des temps, lorsque Jésus revient. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, où il nous était dit dans Thessaloniciens, « Lorsque Jésus revient, les morts en Christ ressuscitent premièrement. » On va peut-être le reprendre, ce texte, parce qu'il est important. On va le reprendre, si vous le voulez, et lire la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18.
En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Merci bien. Vous remarquez dans ce passage, au moment où Jésus revient, il y a la résurrection de ceux qui sont en Christ, donc de ceux qui sont sauvés. Et vous remarquez que ceux qui sont sauvés ne restent pas sur la terre, ils montent au ciel avec lui. On parlera plus tard de tous les événements qui se passent au moment du retour de Jésus, mais vous avez déjà ici une indication particulièrement précise où il nous est dit que tous ces gens-là sont enlevés avec le Christ et restent avec lui.
J'ai une question, mais c'est avec le corps ou on ne peut pas comprendre?
Alors, est-ce que c'est avec le corps ou sans le corps? On va regarder un texte dans 1 Corinthiens 15 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire d'abord le verset 22 et 23 où l'apôtre Paul ici rappelle à quel moment la résurrection a lieu.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Merci. Il y a une résurrection au moment du retour de Jésus, lors de son avènement. Mais ceux qui sont vivants au moment de son avènement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on le sait un petit peu plus loin dans le même chapitre, au verset 51 jusqu'à 53.
Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité.
Merci. Dans les Écritures, la notion de pur esprit n'existe pas. Une créature de Dieu a toujours un corps, mais il y a plusieurs sortes de corps. Pensez à Jésus qui est ressuscité. D'un côté, il va dire à Thomas, « Mets ton doigt, touche-moi, tu vois que c'est bien moi. » Mais en même temps, Jésus va traverser les murs et se présenter dans une pièce alors qu'elle est totalement fermée. Jésus va marcher avec les disciples d'Emmaüs, mais ils ne vont pas le reconnaître. Et tout d'un coup, Jésus va partir. Jésus ressuscité a un corps, mais pas un corps comme le nôtre. Et c'est ce que le texte dit. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus, comme nous dit le texte, seront changés en un instant, en un clin d'œil, et revêtiront en un clin d'œil ce corps particulier que Dieu va nous redonner, et qui est un corps dans lequel ne se trouvera aucune trace et conséquence du péché. Ceux qui sont morts vont ressusciter, et ressusciter avec ce corps incorruptible et immortel, comme le dit le texte.
Dans le fond, il y a un changement de corps. La matière change.
Il y a une recréation. Dieu va nous recréer un corps. Jésus, qui est ressuscité et qui était pleinement un être humain, il est ressuscité. Les disciples, les apôtres ont reconnu Jésus. Ils ont parlé avec lui. C'était lui, ce n'était pas un autre. Donc Dieu va nous rendre le corps qui correspond à notre personne. Mais j'ai une illustration que je vais vous donner par rapport à ça. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle est limitée bien entendu, mais regardez. C'est une salle de classe et il y a un professeur avec les enfants. Chaque jour, les enfants écrivent une page dans leur cahier. Chaque jour, nous écrivons une page de notre vie. Et puis, à la fin de la journée, les enfants vont remettre le cahier à leur professeur. Le soir, le professeur va corriger toutes les fautes qu'il y a dans le cahier. Tous les enfants vont aller se coucher, ils vont dormir. Et le lendemain, ils vont revenir à l'école. Et le professeur va leur rendre leur cahier, corrigé et sans faute. Je voudrais juste qu'on reprenne un texte qu'on avait déjà vu dans Job, en rapport avec ce qu'on est en train de dire, dans Job chapitre 19, le verset 25 et 26. Job 19, verset 25 et 26.
Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu.
Merci. Vous remarquez que Job, ici, est conscient que s'il meurt, un jour, il va se relever dans la résurrection. Et il dit, il faut lire le verset 27, si vous voulez bien aussi.
Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai, et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi.
Merci. Job est conscient qu'après la mort, il va ressusciter et que c'est lui qui va ressusciter. Ça ne sera pas une réincarnation. Moi-même, je le verrai, non pas les yeux d'un autre. C'est lui qui sera présent dans la résurrection devant Dieu. Donc Job est conscient qu'il y a un jour une résurrection. C'est une recréation de la personne même qu'il est, lui. C'est ça la résurrection. J'aimerais juste reprendre un dernier texte dans l'évangile de Jean au chapitre 6 qui nous rappelle à quel moment se passe le réveil. Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 40.
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Merci. Quand a lieu la résurrection?
Au dernier jour.
Au dernier jour. On a la même chose dans le chapitre 11, tournez juste quelques pages. Dans Jean, encore une fois, on retrouve l'histoire de Lazare. Jésus va parler à Marthe. Jean 11, les versets 23 à 25.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort.
Merci. Jésus est en train de parler avec Marthe et lui dit, ton frère va ressusciter. Et Marthe lui dit, je sais qu'il va ressusciter, mais il va ressusciter au dernier jour. Ça ne comble pas la peine que j'ai de mon frère qui me manque maintenant. Marthe est au clair, elle sait que la résurrection aura lieu au dernier jour. Et Jésus est en train de pousser cette femme dans ses retranchements en lui disant, mais je suis la résurrection et la vie. Il est en train de dire à Marthe, mais voyons, au dernier jour, qui va ressusciter ton frère Lazare? Jésus dit, c'est moi. Mais si c'est moi qui ressuscite Lazare au dernier jour, est-ce que je ne peux pas le ressusciter aussi maintenant? Elle le dit d'ailleurs au verset 27. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle est dépassée par ce que Jésus vient de lui dire. Mais elle est au clair que la résurrection a lieu au dernier jour. Jésus rend la vie à Lazare, il ne lui donne pas la résurrection du dernier jour. Je ne sais pas si vous êtes conscient des implications de ce que nous venons de voir ensemble. Ça veut dire en particulier que s'il n'y a pas de communication avec les morts pendant leur mort, alors effectivement, pourquoi est-ce que tout le monde essaie de le faire? La raison est simple, c'est que depuis le début, le diable a dit « vous ne mourrez pas ». L'être humain cherche toujours à suivre ce que le diable lui a raconté plutôt que de suivre la parole de Dieu. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de prière pour les morts. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul mort avec qui je puisse parler. Ça veut dire que Marie, je ne peux pas ni lui parler ni la prier et qu'elle ne peut rien faire pour moi. Ça veut dire que même un saint ne peut rien faire pour moi, parce qu'il attend dans le sommeil de la mort. Autrement dit, toute cette question-là de lien avec la mort n'est pas possible. En fait, c'est très logique. Réfléchissez un instant. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, Abraham. Abraham est mort 2000 ans avant Jésus. Si, selon la tradition, l'âme d'Abraham est toujours en train de rôder quelque part, est-ce que vous réalisez que ça fait 4000 ans que l'âme d'Abraham est en train de tourner quelque part, de voir la terre avec toutes ces transformations catastrophiques, en attendant qu'enfin il puisse aller au paradis? Si vous croyez que cet homme-là est au paradis et qu'il est pendant des milliers d'années en train de rôder autour de la terre, c'est pas le paradis, ça? Vous me suivez? Je voudrais juste en terminant lire deux textes avec vous. Un premier dans Ésaïe chapitre 25, le verset 8 et 9. Ésaïe chapitre 25, le verset 8 et 9.
Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut.
Merci. Ce texte-là nous dit, voilà, la mort sera détruite pour toujours. Il y a donc un moment dans le plan du salut où Dieu va détruire la mort, c'est-à-dire accorder la vie éternelle à tous ceux qui lui auront donné le droit de le faire. Cette situation à laquelle nous sommes confrontés, qui est le salaire du péché, n'est pas une situation inévitable. Dieu a pouvoir sur la mort. La question est de savoir si nous allons lui donner le pouvoir d'agir pour nous, en notre faveur, dans ce sens-là, ou non. Le dernier texte que je voulais regarder avec vous, il est dans Matthieu chapitre 15, verset 3. Là, c'est Jésus qui parle.
Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? »
Merci. L'Église chrétienne a de nombreuses traditions qui ne sont pas en harmonie avec les Écritures. La question va être de savoir ce que nous choisissons, soit les traditions humaines, soit les Écritures. Et Jésus, lui, a fait un choix qui est clair. Il va reprocher à ses contemporains d'avoir donné priorité à la tradition sur les commandements et la révélation de Dieu. Autrement dit, si on veut savoir quel est le plan de Dieu, comment Dieu va gérer cette situation du péché dans le monde et dans ma vie, je ne le saurai véritablement qu'en faisant confiance aux Écritures et à la révélation de Dieu. C'est de cette manière-là aussi que l'on peut savoir exactement comment Dieu va gérer le problème de la mort. La prochaine fois, on va prendre un certain nombre de textes qui sont utilisés souvent pour dire « effectivement, il y a quelque chose pendant la mort ». On regardera ces textes encore dans leur contexte pour voir véritablement ce que la parole de Dieu dit. Et on regardera aussi les conclusions par rapport à ça en ce qui nous concerne. On prie ensemble ? Notre Dieu, notre Père, ce soir encore, nous voulons te louer et te remercier pour ton amour et ta sagesse. Nous te remercions de ce que tu as pouvoir sur la mort et de ce que tu nous fais des promesses selon laquelle il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres où la mort ne sera plus. Nous voulons te louer et te remercier, Seigneur, de ce que tu veux nous donner à tous, la vie éternelle que tu avais prévue au départ, cette vie éternelle que tu voulais nous donner et que nous avons perdue. Et Seigneur, nous voulons surtout te louer et te remercier d'avoir, en Jésus-Christ, pourvu à tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions avoir cette espérance. Accorde-nous cette foi et cette confiance suffisamment grande pour remettre notre vie entre tes mains, de sorte que nous puissions avoir cette assurance de la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen. On avait commencé la dernière fois à parler de la mort. On avait pris des textes, des Écritures dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui nous aidaient à comprendre que pendant la mort, il n'y a pas de vie. La mort est comparée à un sommeil. Un sommeil qui nous indique qu'il n'y a rien pendant ce sommeil-là et que la mort est un repos jusqu'au moment où Jésus revient. Plusieurs textes de l'Ancien Testament et du Nouveau mentionnaient le fait qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'activité, aucune, pendant la mort, et par conséquent, il ne peut pas y avoir de communication aucune avec ceux qui sont décédés. L'image du sommeil est une image positive parce qu'elle indique qu'il y aura quelque part un réveil. Ce réveil, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est au dernier jour, c'est-à-dire au moment où Jésus revient. D'ici là, les morts n'ont aucune connaissance de ce qui se passe sous le soleil. J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui quelques textes en rapport avec les mises en garde que Dieu avait faites à son peuple par rapport au contact que certains cherchaient à avoir avec les morts. Et puis ensuite, on regardera quelques textes difficiles qui suggère qu'il y a une possibilité de contacter les morts. On la regardera dans leur contexte pour voir que, en réalité, l'enseignement biblique est conséquent. Dès le départ, vous vous en souvenez, dans Genèse, on va pas reprendre le texte, le diable avait donné ce mensonge à Adam et Ève, « Vous ne mourrez point ». Et effectivement, depuis, l'homme essaye toujours de trouver une échappatoire à la mort, d'une manière ou d'une autre, qui est tout à fait illusoire, parce que quand la mort intervient, il n'y a rien qu'on puisse faire. Le fait qu'on ait découvert dans les Écritures que la mort est un sommeil et qu'il n'y a aucune activité pendant le sommeil de la mort, nous permet de comprendre que si réellement les morts apparaissent ou parlent, il y a là quelque chose de suspect. Dans le Lévitique et dans l'Ancien Testament, plusieurs mises en garde sont données d'une façon très claire. On va regarder quelques textes. Par exemple, Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31.
Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Merci. Une mise en garde claire. Touchez pas à ça. Tournez juste une page dans Lévitique au chapitre 20. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 6, s'il vous plaît?
Si
quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple.
Merci. La notion de prostitution ici est à comprendre, bien entendu, dans le sens spirituel, pas dans le sens moral. Dans la Bible, la notion de prostitution est utilisée pour faire comprendre l'idée d'infidélité. Infidélité à Dieu, infidélité à la vérité que Dieu enseigne, et infidélité aussi dans la pratique que Dieu enseigne. On retrouve ça, par exemple, dans les textes prophétiques, où on a la femme qui est une image du peuple de Dieu, qui est parfois une femme fidèle, et puis parfois une prostituée, c'est-à-dire infidèle. Regardez un petit peu plus loin dans Lévitique 20, verset 27.
Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doit être mis à mort. À coups de pierre, ils porteront seuls la responsabilité de leur mort.
Merci. C'est une condamnation ici à la lapidation. Donc vous voyez qu'une condamnation très forte est ici présentée par rapport à ceux qui se livrent à cette activité-là. C'est dire que Dieu est en train de mettre là une barrière énorme pour que son peuple n'y aille pas. Et il y a des raisons pour ça. Regardez un autre passage, si vous voulez bien, dans Deutéronome, un petit peu plus loin, au chapitre 18, à partir du verset 10. Deutéronome 18, 9 à 14.
Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous que personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge la mort, car le Seigneur en a en abomination contre eux, qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer, c'est Adam, que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez réprochables envers l'Éternel, votre Dieu.
Merci bien. Là encore, une mise en garde très claire. C'est ce que les peuples qui étaient là avant vous ont fait. Des peuples qui n'avaient aucun contact avec Dieu et qui n'observaient aucune de ses lois. Ne faites pas comme eux. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a dans les Écritures des indications qui nous disent pourquoi la défense que Dieu fait est si ferme. Ce qu'on va regarder, c'est un texte dans l'Apocalypse. On a dans l'Apocalypse de nombreux symboles. On va regarder au chapitre 16. Dans l'Apocalypse, chapitre 16, on a en particulier ici les sept coupes, c'est-à-dire les condamnations qui tombent sur la terre tout à fait à la fin. Elles sont en parallèle avec des avertissements qui sont donnés à la terre et qui sont indiqués au chapitre 8. Et j'aimerais qu'on lise, si vous voulez bien, les versets 13 et 14. Apocalypse 16, versets 13 et 14.
Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
Merci. Alors ici, on a évidemment des symboles. Vous les connaissez. Qui est le dragon?
Satan.
On a ses acolytes, la bête et le faux prophète, qu'on ne va pas décoder maintenant. Mais on a là une trinité diabolique, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, qui va donner naissance à des esprits de grenouilles. Et le texte nous dit, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Les démons ont donc la capacité de faire des prodiges, des miracles. Et que font-ils? Ils vont s'adresser, dans le cas particulier ici, aux grands de la terre, pour leur faire faire ce que le dragon, le diable, veut que ses chefs dans le monde accomplissent de sa part. C'est dire à quel point les démons sont des êtres puissants et qui ont la capacité d'accomplir des miracles, des prodiges et d'entraîner le monde et même les grands avec eux à cause de leurs prodiges. On a développé cette idée, et ce n'est pas nouveau, on l'a déjà dans les Écritures souvent, l'idée que quand il y a miracle ou action surnaturelle, ça vient de Dieu ou ça vient, disons, du bon côté. On a développé l'idée que c'est surtout Dieu qui fait des miracles, et que le miracle est une preuve d'authenticité. Jésus est clair là-dessus. Regardez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire les versets 21 à 23, s'il vous plaît?
Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. »
Merci. La déclaration de Jésus est claire. Il y a des gens qui arrivent et qui disent « Mais Seigneur, on a fait des tas de choses en ton nom, y compris des miracles, nous avons chassé des démons, on a fait plein de choses, on a même prophétisé en ton nom. » Et Jésus est en train de dire « Pendant que vous faisiez tout ça, j'avais rien à faire avec ça, moi. Vous le faisiez en mon nom, soi-disant, mais ce n'était pas en mon nom parce que, et il dit pourquoi, parce que vous ne faisiez pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est le verset 21. Et au verset 23, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le mot anomia, c'est le mot qui indique, vous viviez sans loi. Vous viviez hors du contexte de la loi de Dieu. Donc vous faisiez toutes sortes de choses qui vous plaisent, mais qui ne sont pas le plan de Dieu. Donc le miracle n'est pas une preuve d'authenticité divine. Le miracle peut être accompli par des démons ou les miracles peuvent être accomplis par des gens qui ne sont pas en harmonie avec Dieu et qui se font sujet d'une puissance autre pour accomplir ces miracles. Donc le diable est capable d'accomplir des miracles. Et je pense que le diable utilise ce moyen-là plus que toute autre chose précisément pour séduire et pour faire croire que ça vient de Dieu. La raison pour laquelle Dieu donne une interdiction si forte à son peuple pour ne pas toucher à ce domaine-là, c'est précisément parce que le diable lui est capable de faire des miracles. Regardez par exemple ce texte de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14.
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Merci. L'apôtre Paul ici est en train de parler des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux ministres de l'Évangile. Et il dit aux gens à qui il écrit, ça ne doit pas vous étonner. Parce que le diable lui-même est capable de se déguiser, et il ne va pas se déguiser en diable, il va se déguiser en ange de lumière. Donc ce n'est pas étonnant que ceux qui travaillent avec lui se déguisent en ouvriers de bien. On apprend donc ici que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Il est par conséquent capable de se déguiser en tout ce qu'il veut, prendre toutes les apparences qu'il veut et par conséquent tromper de cette manière-là. Autrement dit, Dieu a interdit à son peuple de toucher à ce domaine de la communication avec les morts parce que le diable répond quand on le lui demande. C'est tout simple. C'est vrai, il y a des gens qui ont vu des gens de leur famille défunts qui les ont touchés, qui les ont entendus parler. Ce sont des manifestations réelles. On ne peut pas dire que parce que la Bible enseigne que les morts dorment, que ces manifestations n'existent pas. Elles existent, mais d'où viennent-elles? Elles viennent de l'ennemi qui se déguise en ange de lumière et qui est à l'origine du mensonge dans le jardin d'Éden. Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez jamais. Le diable ne peut rentrer que dans une porte qu'on lui ouvre, de même que Dieu. Par conséquent, il y a un moment où je choisis de laisser le diable faire ce qu'il a envie de faire avec moi. Sinon, il n'en a pas le droit. Mais j'ai, vis-à-vis du diable comme vis-à-vis de Dieu, une liberté de choix. Et la différence va arriver à partir du moment où je vais faire mon choix. Parce que si je fais le choix de laisser le diable faire, je perds ma liberté. Parce qu'il va me mettre dans tout un tas de situations où je ne serai plus libre. Si je choisis au contraire d'ouvrir la porte à Dieu Il va préserver ma liberté constamment tout le long du chemin. C'est la grosse différence. Il y a tout un chapitre dans la Bible qui parle de ça. C'est Romains chapitre 2. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, on comprend que les païens qui se sont convertis, ils ont une question. Ils disent, oui, mais nous, on comprend qu'on est sauvés parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur. Mais nos parents, nos grands-parents, nos familles qui n'ont pas été exposées à l'Évangile et qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver? L'apôtre Paul répond en leur disant, tout le monde a une conscience. Dieu travaille dans le cœur de tous par la conscience et en fonction de ce que chacun connaît et a à sa disposition. Et l'apôtre Paul explique, nous serons jugés en fonction de ce que nous connaissons et de ce que nous avons fait en réponse à notre conscience que nous avons tous. Si je traduis en termes religieux conscience, je vais parler Saint-Esprit. Donc en fonction de cette réponse que nous donnons à notre conscience, qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne connaisse pas, l'attitude que l'on a vis-à-vis de notre conscience va nous orienter vers Dieu ou loin de Dieu. Dieu ne me reproche pas de ne pas savoir. Dieu me reproche de ne pas être à la hauteur de ce que je sais. Il y a des gens, quelle que soit la religion dans laquelle ils sont, que ce soit une religion chrétienne ou non chrétienne. Il y a des gens qui sont d'une grande droiture, d'une grande sincérité par rapport à ce qu'ils font, même si c'est faux, et d'une grande honnêteté intérieure. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont répondu à leur conscience, mais qui font peut-être des choses qui sont complètement hors cadre biblique, parce qu'ils n'ont jamais été exposés au cadre biblique réel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que je suive bêtement la Bible. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse changer mon cœur. Ce que Dieu veut faire avec moi et chacun d'entre nous, c'est nous préparer à retrouver la situation de vie éternelle qu'on avait au départ. Le reste sont tous des outils que Dieu nous donne pour y arriver. Et il ne faut donc pas confondre les outils pour l'objectif à atteindre. Alors, je crois que Dieu cherche tous les hommes. Et je crois que Dieu travaille dans la vie de tous les hommes, j'entends les êtres humains bien entendu, pour les attirer à lui et les attirer au salut et s'assurer le plus possible qu'ils puissent hériter de la vie éternelle. Mais Dieu a les moyens de se révéler aux êtres humains que nous, nous n'avons pas. Nous avons la parole de Dieu, on cherche, on étudie, on découvre. Très bien, Dieu lui a le Saint-Esprit pour travailler dans le cœur des gens et les amener dans le cadre où ils sont, à vivre avec droiture et sincérité ce qu'ils vivent. Et à partir de là, il peut les tirer vers une plus grande vérité avec le temps. Mais à chaque vérité supplémentaire que j'acquiers, correspond ma responsabilité.
C'est le but, en fait, c'est la relation.
C'est même plus que ça. Le but, c'est que en nous soit restaurée l'image du caractère de Dieu. Et la relation est un outil pour y arriver. Dieu veut reconstruire l'être humain, mais pour reconstruire l'être humain, il faut les outils. L'outil numéro un, la relation. Mais il faut aussi la construire, cette relation. Donc Dieu va me donner les moyens de reconstruire avec lui une relation, et dans cette relation, il va restaurer dans l'être humain l'image du Créateur. Parce qu'au début, il nous a créés à son image. Jean chapitre 8, versets 31 et 32.
Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. »
C'est ça, la vérité vous rendra libre. Matthieu 24, dans Matthieu 24, Jésus donne un discours ici sur les signes précurseurs de son retour. De nombreux signes sont donnés et il y en a un en particulier qui est extrêmement intéressant qui se trouve dans donc Matthieu 24, versets, on va lire, 23 et 24.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Qui fait les miracles? C'est pas Dieu. ce sont tous les faux. En fait, ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il nous donne ses interdictions d'avoir contact avec ceux qui ont accès aux morts et à ceux qui font des choses surnaturelles, c'est de dire ces choses-là existent, elles viennent de l'ennemi, écartez-vous de l'ennemi, ne vous mettez surtout pas sous son influence d'une façon ou d'une autre et ne vous laissez pas séduire parce qu'il est capable de faire des miracles. Le miracle n'étant pas nécessairement une preuve que ça vient de Dieu. Je crois que Dieu fait des miracles aussi aujourd'hui en grand nombre, mais je crois que les miracles que Dieu fait sont des miracles d'une nature différente, précisément pour ne pas qu'on se trompe sur l'origine. Si quelqu'un n'a pas le souci de suivre la parole de Dieu et qui fait des miracles, je vais dire, écoute, t'es pas dans le cadre biblique, mon ami.
Est-ce que l'astrologie fait partie de ça aussi?
Ok, alors, Théronome 18.
C'est marqué, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'ologue, d'augure, d'indeur, personne qui consulte ceux qui évoquent ces 10 et 12 à 12.
Oui, c'est ça. C'est tout le morceau, c'est 9 à 14. On va regarder un dernier texte avant de passer à autre chose, si vous voulez bien, dans Ésaïe chapitre 8, qui va nous donner une indication de là où il faut s'orienter. J'aimerais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, les versets 19 et 20.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple.
Merci. C'était la pratique des peuples qui entouraient le peuple d'Israël de consulter les morts, les devins, les magiciens, etc. Et Dieu est en train de dire ici, mais vous, vous allez consulter qui? Vous allez demander à Dieu. Comment est-ce que vous allez demander à Dieu? Le texte nous le dit.
La loi et les témoignages.
La loi et les témoignages. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Dans le contexte où on est ici de l'Ancien Testament, la loi, ce sont les livres de Moïse. Et les témoignages, c'est quoi? Ce sont les témoignages que les prophètes de Dieu ont apportés. Dans le cadre où nous sommes là, du prophète Ésaïe, il s'agit de tout ce qui est considéré comme étant les écrits inspirés des prophètes et de Moïse qui a apporté la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, tous les écrits de Moïse. En d'autres termes, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous avons entre les mains un outil, sa parole, pour le savoir. Alors, on va revenir là-dessus dans un instant en prenant une parabole de Jésus qui enseigne exactement la même chose. J'aimerais prendre maintenant quelques textes qui sont des textes par rapport à cette question de la mort. Je vais essayer de vous les expliquer pour y voir plus clair. Le premier texte que j'aimerais regarder, il est dans 1 Samuel chapitre 28. Je vais en un mot vous résumer le chapitre 28. On arrive ici à la fin de la vie de Saül, qui est le premier roi d'Israël. Ce premier roi d'Israël a été choisi par Dieu, mais il a rapidement tourné, il s'est pris pour quelqu'un, il s'est enorgueilli énormément, et il a finalement rejeté Dieu et le prophète Samuel qui parlait de sa part. Il a vraiment fait ce qu'il voulait, au point d'en perdre souvent la raison. Il arrive là à la fin de sa vie parce qu'il est attaqué par toute une coalition d'ennemis et il sent qu'il n'a pas l'appui de Dieu d'abord et il n'a pas les moyens de résister à ce qui vient contre lui. Alors il va faire une chose particulière, il va aller voir une voyante. Regardez d'abord ce qu'il fait. Versets 5 et 6, si quelqu'un veut le lire.
Lorsque Saul vit le camp des Philistins, il eut grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par les rêves, ni par l'Ourin, ni par les prophètes. Alors il ordonna à ses fonctionnaires, « Recherche une femme capable d'interroger les morts afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. »
Merci. Saül, qui a au début de son règne essayé de nettoyer le peuple d'Israël de tout le spiritisme qu'il avait envahi, ici, veut consulter Dieu. Et le texte nous dit, Dieu ne lui répondit rien, par aucun des moyens par lesquels Dieu parle aux hommes. Jusque-là, le prophète Samuel avait été l'outil privilégié par lequel Dieu parlait à Saül et lui disait, oui, non, attention, par ici, par là. Jusqu'au jour où Saül a dit, j'en ai assez, je fais ce que je veux. Et on apprend un peu plus tôt dans le livre de Samuel qu'à un moment donné, à cause de ses désobéissances, Dieu l'a rejeté, carrément. Et maintenant, Dieu ne lui répond pas, pas un mot. En fait, ce que Saül veut, c'est pas de savoir la volonté de Dieu. Dieu le sait et Dieu lui dit, t'as pas envie d'entendre ce que je te dis, pas plus maintenant que par le passé où tu voulais rien savoir. Dieu l'a rejeté parce qu'il n'y avait plus moyen de faire rien du tout avec lui. Regardez par exemple dans 1 Samuel 15, quelques chapitres avant, on pourrait lire les versets 22 et 23.
Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. »
Merci. Vous remarquez ici dans ce texte, il est dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » La résistance à Dieu est comparée à l'idolâtrie. C'est très fort comme passage. C'est ce qui est arrivé avec Saül. Saül, voyant que Dieu ne lui répond pas, va simplement aller chercher une voyante et il va lui demander de faire remonter Samuel, le prophète, mais qui est mort depuis. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le verset 11 et 12? Dans 1 Samuel 28, le verset 11 et 12.
La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi? » Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. »
Merci. Saül était venu sans se faire connaître. Et là, la voyante lui demande, « Tu veux que je fasse monter qui? » Et il dit, « Samuel. » C'est ce qu'elle va faire. Quelqu'un peut lire 13 et 14, s'il vous plaît?
Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna.
Cette voyante va faire je ne sais pas quelle magie et on se rend compte dans le texte que Saül ne voit rien. Il lui demande, que vois-tu? Je vois un Dieu qui monte de la terre. Et Saül, qui ne voit toujours rien, lui dit, quel visage a-t-il? Réponse, un vieillard avec un manteau. Mais des vieillards avec des manteaux, il y en a plein la rue. Et le texte nous dit, Saül a compris que c'était Samuel. On a appris dans les textes bibliques que les morts dorment. Que par conséquent, il n'y avait aucune communication possible avec les morts. Maintenant, Saül va voir cette voyante qui va faire en sorte que quelqu'un des morts va revenir. Et le prophète de Dieu, c'est ce qu'il a demandé. Alors maintenant, réfléchissez avec moi. Saül demande à Dieu de lui parler. Dieu ne répond pas parce que Saül a rejeté Dieu et Dieu l'a rejeté parce qu'il n'y avait plus moyen de rien faire avec lui. Est-ce que vous pensez que maintenant, Dieu va lui répondre par une voyante qui fait quelque chose contre la volonté de Dieu, et vous pensez que le prophète Samuel va ressusciter pour venir parler à Saül? Sûrement pas. Ce qu'elle voit est tellement vague, un vieillard avec un manteau, et dit, ah voilà, un vieillard avec un manteau, c'est Samuel. Et le texte continue en disant, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé, etc., etc. Comme si réellement Samuel lui parlait, et lui commence à discuter avec lui. Et dans la discussion, le soi-disant Samuel lui dit, tu vas mourir. Saül panique. Et dans les chapitres qui suivent, en particulier au chapitre 31, il va partir à la guerre avec cette information-là. Il est blessé Et il va dire à son serviteur, achève-moi pour pas que je sois tué par des étrangers. Le serviteur ne veut pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur son épée, se suicide. Voilà à quoi aboutit l'histoire. Est-ce que vous pensez que c'est une rencontre avec un prophète qui conduit au suicide? Sûrement pas. Donc on a ici l'histoire de quelqu'un qui va au-delà de ce que Dieu a interdit de faire, et le diable répond. Le diable répond et il est capable de se déguiser dans n'importe quoi pour faire croire que c'est Samuel. Et il va croire ce que cet esprit démoniaque va lui dire. Et en réalité, il va lui-même réaliser ce que le diable lui a prophétisé. Donc ce texte-là n'est pas en train de dire « Ah oui, les morts remontent, la preuve, il y a un prophète qui est remonté ». Pas du tout. Parce que le contexte nous montre que Dieu ne va jamais faire remonter un prophète pour dire des choses semblables.
Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Satan, c'est pas le futur, lui.
Regardez, nous avons 70, 80, 90 ans d'expérience dans la vie. Le diable, il a 6000 ans. Il n'y avait pas besoin d'être un prophète dans la situation où était Saül pour lui dire « T'es fini, mon ami ». Et ce n'était pas nécessaire d'avoir un prophète pour lui dire que ses fils allaient disparaître parce que il était clair que Dieu avait déjà choisi un autre roi qui n'était pas de sa descendance. Il lui avait dit. Qu'est-ce qui allait donc arriver de la descendance de Saül? Il fallait qu'il disparaisse avec lui pour que le plan de Dieu se réalise. Donc il n'y avait pas besoin d'être prophète ni bien malin pour pouvoir dire à Saül, voilà ce qui va t'arriver mon ami. Le lui ayant dit, il s'est précipité pour le réaliser. Alors le diable ne connaît pas l'avenir, c'est vrai, mais il a suffisamment de puissance pour pouvoir connaître un certain nombre de choses et il est capable de réaliser dans une certaine mesure ses propres prophéties. Ce texte-là ne nous enseigne pas que les morts reviennent, ce texte-là nous enseigne que le diable effectivement joue son propre jeu jusqu'au bout, quitte à vouloir faire croire que ce sont même les prophètes qui sont là, apparus pour parler aux croyants. Et cette supercherie continue encore aujourd'hui. Un autre texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Dans ces chapitres de l'évangile de Luc, il y a plusieurs paraboles. Dans les chapitres qui précèdent, il y en a aussi tout un nombre qui sont les unes derrière les autres pour enseigner un certain nombre de choses. Et à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, il y a la parabole de Lazare et de l'homme riche. On va lire 19 à 31.
Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »
Merci. Cette parabole que l'on a ici est une parabole que Jésus utilise et qui est une histoire connue du temps de Jésus. Et Jésus va l'exploiter pour apporter un enseignement clair. Maintenant, cette parabole présentée telle quelle nous laisse supposer qu'il y a communication entre les morts. On a deux personnages et qui sont présentés de façon curieuse. Dans la Bible, quand quelqu'un n'a pas de nom, c'est une personne qui n'a pas d'identité, c'est une personne qui n'est rien. Or ici, c'est le riche qui n'a pas de nom. Et le pauvre qui n'est rien a un nom. Avoir un nom dans la Bible, c'est extrêmement important. Donc Jésus va déjà commencer par mettre les choses à l'envers dans cette histoire. C'est le pauvre qui est quelqu'un et le riche qui est personne. Ils vont mourir les deux et le texte nous dit que l'un va se retrouver dans le sein d'Abraham et l'autre va être enterré. Et puis tout d'un coup, ils commencent à se parler. Le riche, il dit « Au secours, est-ce que tu peux envoyer Lazare avec une goutte d'eau parce que je suis en train d'avoir chaud ici. » Alors, on ne peut pas utiliser cette allégorie-là pour dire que l'enfer existe et qu'il y a communication entre les morts parce que si on fait ça, on est en train de prendre cette parabole du point de vue littéral. Si on la prend du point de vue littéral, il faut être conséquent. Si les morts sauvés vont dans le sein d'Abraham, Abraham a un sein d'une taille phénoménale parce que ça fait un moment qu'il y a des gens qui y vont alors. Et il considère qu'Abraham, évidemment, est sauvé par définition. Ensuite, si vraiment l'autre est dans le feu et qu'une goutte suffit à le rafraîchir, ça doit être une fameuse goutte d'eau. Alors, ils sont en train de se parler au-dessus d'un grand abîme et ils s'entendent. Alors, Jésus, ici, donne la clé. Et vous remarquez encore, je l'avais fait remarquer à propos d'un autre texte, quand on regarde un texte dans son contexte, on comprend généralement ce que ce texte veut dire. Jésus va être clair, il va mettre dans la bouche des personnages l'enseignement qu'il veut transmettre. Parce que le riche va crier et va dire « Est-ce que tu peux envoyer Lazare dans ma famille pour leur dire de ne pas faire les bêtises que j'ai faites de façon à ce qu'ils ne viennent pas brûler avec moi ?» Réponse : pas possible. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent.
C'est-à-dire les Écritures,
c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la loi et les prophètes dont on parlait tout à l'heure. Et l'autre insiste, il dit « Non, je suis sûr que si quelqu'un des morts va les voir, ils vont croire. » Jésus donne au verset 31 la réponse « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Ce qui est intéressant, c'est que ce que Jésus dit là, s'est réalisé peu de temps après. Regardez dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, on a le texte de la résurrection de Lazare. Le vrai Lazare, c'est-à-dire le frère de Marthe et Marie, qui était mort, et que Jésus a ressuscité après 4 jours. Vous vous en souvenez? Donc, on a dans le chapitre 11 toute la description de la maladie de Lazare, de sa mort, et de Jésus qui vient pour le ressusciter. Maintenant, regardez dans le même chapitre, le verset 53 et 54.
C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert.
Merci. Vous avez remarqué, Jésus ressuscite un mort. Ça, c'est, on pourrait dire, le miracle par excellence. Ils ont été témoins de la résurrection de Lazare. Ils ont même été témoins de sa mort avant.
4 jours avant.
Marthe dit, il sent déjà. Mais, juste après, dans le même chapitre, ils résolurent, à partir de ce moment-là, de faire mourir Jésus. Jésus avait dit, même si quelqu'un des morts ressuscitait, il ne se laisserait pas persuader. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est complètement insensé. Jésus rend la vie à quelqu'un. Premier réflexe, il faut le faire mourir celui-là. Cette histoire de Luc 16, on ne peut pas la prendre littéralement. Si on la prend littéralement, elle n'a plus aucun sens. C'est tout à fait illogique. Par contre, il faut le prendre comme une parabole, comme une image. Et Jésus donne l'enseignement qu'il veut enseigner par cette image. Vous pourriez même faire revenir quelqu'un des morts, si vous le voulez. S'il ne croit pas dans les Écritures, ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de croire ce que dit la parole de Dieu et de le prendre pour parole de Dieu. La révélation de Dieu a l'autorité suprême. C'est ce que Jésus dit. Et vous vous souvenez du texte qu'on avait vu la dernière fois, où Jésus leur dit « Vous annulez les commandements pour suivre votre tradition. » J'aimerais juste regarder un autre passage dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 11.
Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
Merci. On est ici dans l'Apocalypse, on est donc dans un livre qui est plein de symboles prophétiques. Mais vous avez remarqué, il y a ici les âmes qui sont sous l'autel et qui parlent. Ils crient « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger ?» Alors les âmes sous l'autel, de quel autel s'agit-il ? On est là dans le contexte du temple, du sanctuaire qu'on étudiera un petit peu plus tard, l'autel des sacrifices. Il s'agit donc ici des martyrs essentiellement, ceux qui ont été sacrifiés pour leur foi. Et ces martyrs disent « Seigneur, dépêche-toi de nous juger. » Certains disent « Ah, mais voyez que les morts parlent. Ils s'adressent à Dieu ici. » Vous remarquez que pendant qu'ils sont morts, une robe blanche est donnée à chacun d'eux. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont morts, il y a un jugement qui s'opère. Robe blanche, signe de la justice. Et il leur est demandé de rester en repos quelque temps encore. Vous vous rendez compte qu'on est là dans un langage symbolique que l'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans les Écritures, très tôt dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, on a ici l'histoire de Caïn et Abel. Et vous vous souvenez, ce sont les enfants d'Adam et Ève. Caïn avait, lui, choisi d'adorer Dieu à sa manière à lui, et Abel avait choisi d'obéir à la manière que Dieu avait donnée pour lui rendre un culte. Vous vous souvenez qu'à cause du sacrifice agréé par Dieu pour Abel, Caïn avait été jaloux, il avait tué son frère. Et regardez bien ce qui est dit ici. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans Genèse 4, le verset 9 et 10, s'il vous plaît?
L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. »
Merci. La voix du sang de ton frère. Est-ce que le sang crie? Non. Il est simplement en train de dire, « Le sang que tu as versé ici crie vengeance. Appelle à la justice. » De la même manière que les âmes sous l'autel, c'est-à-dire ces gens qui, comme Abel, ont été sacrifiés pour leur foi, cette situation demande l'intervention de Dieu dans le jugement pour faire justice. Et c'est ce qui est fait dans la robe blanche qui leur est donnée. Mais on avait vu la dernière fois qu'il n'y a pas de résurrection avant quoi? Avant la fin, au dernier jour. Donc c'est encore là une image, comme pour le sang d'Abel, qui nous dit que ces martyrs sont dans une situation qui demande que Dieu intervienne et que Dieu fasse justice quelque part. Est-ce que ça veut dire que pendant la mort, les morts parlent? Non. Comme le sang, d'ailleurs, qui ne parle pas non plus, mais qui, par le fait qu'il a été versé, exige l'intervention de Dieu. Maintenant, j'aimerais prendre quelques textes en rapport avec l'enfer. Dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, il y a plusieurs textes dans les Écritures dont le langage nous fait comprendre qu'il y a pour les méchants à la fin des temps un jugement éternel. On va en prendre quelques-uns. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 20, on va lire le verset 10, par exemple.
Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, et il y joignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité.
Merci. Jour et nuit pendant l'éternité. Jour et nuit au siècle des siècles, dit le texte. Un peu plus loin, quelqu'un veut lire le verset 14 et 15, s'il vous plaît.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Merci. Apocalypse chapitre 14, versets 9, 10 et 11.
Un troisième ange le suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni jour, ni de nuit. »
Merci. Même chose, même idée. Prenez un texte maintenant dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 66. À la fin du livre d'Ésaïe, on a des chapitres qui parlent de ce qui se passe à la fin des temps. Et à la fin du chapitre 66, au verset 22, 23, 24,
Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.
Merci. Donc, vous avez là plusieurs textes, j'en ai pris et sélectionné quelques-uns, qui indiquent que les méchants sont châtiés d'une façon permanente, apparemment, suivant le texte, et on apprend même que les vers sont immortels, les vers qui les dévorent. Donc, les vers seront immortels aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'effectivement, certains chrétiens ont tiré de ça l'idée que ceux qui se rebellent contre Dieu et qui rejettent Dieu vont subir un châtiment permanent et éternel. Dans le feu de l'enfer. À partir de ces textes, on les a lus, qu'on en a lu quelques-uns, il semble que le châtiment est éternel au siècle des siècles, éternellement. Est-ce que, déjà logiquement, le Dieu de la Bible est un Dieu qui se réjouit de la punition infligée aux méchants? Non. Regardons un texte, si vous voulez, dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 23.
Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?
Merci. Tout ce chapitre-là est sur ce sujet-là. Ce que Dieu veut, c'est que tout homme puisse vivre. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde. La volonté de Dieu n'est pas de détruire les hommes, mais vont être détruits ceux qui se sont séparés définitivement de Dieu, au point que Dieu n'a pas rencontré chez eux la volonté de laisser Dieu les sauver. Ça peut être des gens qui, de leurs paroles, disent « Oui, j'aime Dieu et je fais sa volonté », mais qui, dans les faits de leur vie, font exactement le contraire. C'était la situation de Saül, c'était la situation de Judas, par exemple, qui semblait être un disciple comme tous les autres, admiré de tout le monde, et qui, en fait, dans son cœur, n'en était pas un. Maintenant, on a des exemples dans la Bible qui nous sont donnés comme exemple à l'avance de ce que sera le jugement de Dieu à la fin. On va regarder un texte dans l'épître de Jude, au verset 7. Il n'y a pas de chapitre, c'est juste des versets. On va lire tout le paragraphe, depuis le verset 5 jusqu'au verset 7, pour avoir l'ensemble.
« Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. »
Dans ce texte-là, nous avons une indication que Sodome et Gomorre, et ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre, est une image en petit de ce que sera le jugement de Dieu, parce que Dieu a exercé sur ces villes un jugement à cause de leur rejet définitif de Dieu. Et il est dit à propos de Sodome et Gomorre, vous vous souvenez dans Genèse, il nous est dit que Sodome et Gomorre ont été détruits parce que Dieu a envoyé le feu du ciel pour les détruire. Vous vous souvenez qu'il y avait dans Sodome Lot, qui était le neveu de Abraham, et que des anges l'ont fait sortir. Mais qu'une fois Lot sorti de la ville, Dieu a fait tomber le feu du ciel. Sodome, Gomorre et les villes voisines ont été entièrement consumées par le feu. Et le texte nous dit ici que c'est donné en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Est-ce que ça fume encore à Sodome et Gomorre?
Non.
Non.
C'est la mer morte.
Alors, la ville de Sodome et Gomorre se trouve vraisemblablement aujourd'hui sous la mer morte. Et la mer morte, elle est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Elle est bien morte parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans, tellement elle est salée. D'ailleurs, le peuple hébreu aujourd'hui a fait une exploitation importante dans cette région-là pour réutiliser tous les produits qui se trouvent dans cet endroit-là. Sodome et Gomorre sont donnés en exemple pour nous dire à la fin des temps, c'est de cette manière-là que Dieu va détruire les méchants. Est-ce que ça fume encore à Sodome et Gomorre? Est-ce que ça brûle encore? Sûrement pas. Mais la destruction de Sodome et Gomorre est une destruction définitive. Elles ont été détruites par le feu, ces villes, mais une fois qu'il n'y avait plus rien à brûler, ça s'est arrêté. Et comme pour sceller cette destruction, Dieu a mis la mer morte là-dessus. Non pas pour dire le feu va brûler éternellement, mais la destruction finale par le feu que Dieu va faire pour détruire le mal, les méchants, la mort, le diable et ses anges est une destruction qui sera permanente. Dieu ne va pas s'installer à son balcon pour regarder les méchants qui brûlent pendant l'éternité, mais Dieu va détruire les méchants, le mal et le diable et toutes ses conséquences d'une façon définitive et permanente. L'enfer tel qu'on le présente, sûrement pas, parce qu'il n'y a aucune logique à penser que Dieu a besoin de punir pendant l'éternité, et l'éternité c'est long, quelqu'un qui a péché 80 ans. Est-ce que vous arrivez à réconcilier ça avec le Dieu d'amour qui vient et qui meurt pour nous sauver? Sûrement pas. Dieu n'a pas de choix, dans un sens. Si Dieu veut restaurer l'univers dans ce qui est uniquement pur et juste et saint, il n'y a qu'une solution, c'est de détruire d'une façon permanente tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là. Dieu n'est pas en train d'assouvir un plaisir malsain à voir la souffrance. Ce qui est nécessaire, c'est d'enlever le mal pour toujours. On va regarder quelques textes encore, si vous voulez bien. Abdias, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire les versets 15 et 16, s'il vous plaît?
Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas, et on le traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne, de même toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de la colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront et puis elles seront anéanties.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me lire ce texte dans une autre version? C'est la même idée, mais c'est dit un petit peu autrement. Bon. Le verset 16.
Tout comme vous avez bu sur ma montagne, sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé.
Voilà. Le texte nous dit... Littéralement, elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. C'est exactement ce qui se passe avec la destruction du mal et des méchants. La destruction que Dieu va faire à la fin des temps, par le feu, est une destruction qui fait écho à ce que Dieu a déjà fait par l'eau dans le déluge, qui était aussi l'exercice d'un jugement de Dieu. Cette fois-ci, par le feu, parce que le feu... est un élément purificateur. Et maintenant, il faut purifier la terre du mal d'une façon complète. Il faut purifier la terre du mal, des conséquences du mal et de l'origine du mal, d'une façon définitive. Alors, Dieu va détruire par le feu, mais est-ce que le feu va brûler toujours? Non. Le texte nous dit, ces nations, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Il y a un jeu de mots dans ce texte-ci qui n'apparaît pas vraiment dans nos traductions parce que au verset 16, il est dit « Ainsi toutes les nations boiront sans cesse. » Et le mot qui est ici « sans cesse », c'est un mot qui a la notion d'éternel, justement. Elles vont boire éternellement cette coupe du jugement. Est-ce que être jugé par Dieu, c'est boire quelque chose éternellement? Non. C'est porter définitivement et d'une façon permanente la conséquence de la destruction que Dieu va faire entièrement. sa nation seront comme si elle n'avait jamais été. Et c'est exactement le sort qui est réservé à ceux qui rejettent Dieu et qui seront finalement détruits. Notez là que c'est différent de la mort-sommeil dont on avait parlé la dernière fois. Un autre texte maintenant, dans Jérémie 7, verset 20. Jérémie 7, verset 20. Là, c'est encore un texte qui va dans le sens des textes qu'on a lus tout à l'heure, avec un feu qui ne s'éteint point. Est-ce que quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Jérémie 7, verset 20.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point.
Elle brûlera et ne s'éteindra point. Comme Sodome et Gomorrhe qui a brûlé et qui n'est plus pour toujours. Regardez Deutéronome 32, 22. Deutéronome 32, verset 22.
Comme un feu, ma colère s'enflamme et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits. Elle va embraser les fondements des monts.
Merci. Quand Dieu va juger à la fin, sa destruction par le feu ne va pas être superficielle. Elle sera en profondeur, dans le sens où tout ce qui est mal sera détruit. Et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts, indiquant par là qu'il va détruire définitivement même ceux qui sont morts et qui sont perdus. On verra plus tard comment Dieu organise la fin des temps. Un texte encore dans Ézéchiel, cette fois-ci au chapitre 21. Il y a là une comparaison qui est faite et qui est intéressante. Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, on va lire les versets 2 à 5, si vous voulez bien, pour avoir tout le contexte.
Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis à Seigneur Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles?
Merci. On a ici exactement une parabole où, de la part du Seigneur, le prophète va prophétiser contre la forêt des champs du Midi. Tu diras à la forêt du Midi. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume du Nord, royaume d'Israël, 10 tribus. Royaume du Sud, 2 tribus, capitale Jérusalem. Et les prophètes étaient envoyés soit à l'un ou à l'autre de ces deux royaumes qui ensemble constituaient le peuple d'Israël, malgré tout. Il y avait juste une division suite au règne de Salomon. Alors ici, le prophète est envoyé dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, capitale Jérusalem, et il emploie là une image. Parle à la forêt. Dans les Écritures, le bois, l'arbre, est une image de l'être humain. On le retrouve à plusieurs endroits. On le retrouve en particulier dans Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a une vision, il voit un grand arbre, et Daniel vient lui expliquer que cet arbre, c'est lui. Donc l'image est fort simple. L'arbre, c'est l'être humain. La forêt, c'est le peuple. Dieu envoie son prophète pour parler au peuple de Juda, à Jérusalem, et il dit, je vais allumer dans toi un feu qui dévorera tout. Les arbres secs, les arbres verts, tout le monde. Et il est dit au verset 4, et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra point. En réalité, ici le prophète de la part de Dieu est en train de parler de la destruction de Jérusalem qui va venir, où effectivement Jérusalem va être détruite entièrement. Mais est-ce que ça brûle encore à Jérusalem? Non. Elle a été détruite, elle a été reconstruite, elle a été détruite et reconstruite. Ce qu'il dit, c'est que le jugement que Dieu veut exercer sur sa ville est un jugement à effet à long terme. Et effectivement, Jérusalem va rester en ruine pendant longtemps, 70 ans, et Jérusalem ne se remettra jamais complètement de cette destruction-là. Le temple ne sera jamais ce qu'il avait été avant. Et ici, l'expression est employée, il ne s'éteindra point, mais il ne brûle plus depuis longtemps. Donc c'est une manière de présenter le jugement de Dieu comme étant à effet permanent, définitif, pour ceux qui ont rejeté définitivement Dieu et son plan de sauvetage. C'est fort simple. Quand vous faites un feu et qu'il n'y a plus rien à brûler, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'arrête. Et ce sera la même chose. Quand le feu de Dieu aura détruit tout le mal et les méchants, il va s'arrêter. Et il est nécessaire qu'il s'arrête parce que, et ça il faudra le regarder plus en détail plus tard, Dieu veut rétablir sur la terre, restaurer et réinstaller son peuple. Si les méchants brûlent sur la terre en permanence, comment est-ce qu'on va installer la nouvelle terre? De plus, vous avez dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe où on était tout à l'heure, il y a un passage qui nous dit qu'il y a un moment où on ne se souviendra plus des choses passées. Lorsque tout le problème du mal aura été réglé, lorsque toutes les questions auront reçu une réponse de la part de Dieu et que tous les sauvés auront eu la réponse à toutes leurs questions, le dossier terre, oui, sera clos et Dieu va appuyer sur le bouton « Delete » parce que ce sera absolument plus nécessaire de se souvenir de la misère de cette terre. On aura tourné la page, on sera passé sur autre chose. On va juste regarder ce texte dans Ésaïe 65. Alors, Ésaïe 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Autrement dit, il y a un moment où tout le problème du mal a trouvé sa solution complète sur la terre et dans l'univers. Le dossier est clos et Dieu va enlever de notre mémoire la misère qui reste de cette affaire parce que ce n'est pas nécessaire. Ce que Dieu veut, c'est nous permettre de jouir de ce qu'il avait prévu au départ et qui a été gâché dans le jardin d'Éden. Il va rendre à ceux qui sont sauvés la vie éternelle dans un monde où le péché, ses conséquences, ont entièrement disparu. Autrement dit, même si la Bible emploie des expressions qui nous laissent supposer que ça va brûler éternellement, quand on les prend dans leur contexte, dans le langage imagé de l'Ancien Testament et dans le contexte des autres passages qui nous éclairent sur ce que Dieu va faire vraiment, on comprend que le jugement de Dieu n'est pas un jugement qui se prolonge éternellement, c'est un jugement dont les conséquences sont éternelles. C'est un jugement à effet définitif et permanent. Autant pour ceux d'ailleurs qui sont perdus que pour ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas notre business de dire qui est sauvé, qui est perdu. Notre business, c'est de dire, Seigneur, je comprends que tu as un plan. Ce plan, moi, je le veux pour moi. Et ce plan est basé sur l'amour de Dieu. Dans notre tête, amour est une chose, justice est une autre. Parce que notre monde est fait comme ça. C'est faux. C'est faux, parce que amour et justice en Dieu sont une seule et même chose. Ce sont les deux facettes de la même pièce. Ce sont deux aspects du même caractère, deux éléments du même Dieu. Ce qui veut dire que la justice de Dieu qui s'exerce pour la destruction du mal, des méchants, des anges déchus, du diable, c'est l'expression suprême de l'amour de Dieu. On a vu tout ce qui concerne la nature humaine, la déchéance humaine, la situation humaine, le mal, la souffrance, le péché, la mort, etc. D'origine, le diable. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, on est condamné à mort. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut nous sauver. Maintenant, ce que je veux faire, c'est reconstruire. Qu'est-ce que Dieu met à notre disposition? Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que je ne sois pas condamné définitivement à la destruction? Quel est le plan? Comment s'articule ce plan? On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce soir nous voulons à nouveau te remercier pour la grandeur de ton amour, pour l'immensité de ta justice, pour la grâce que tu étends à tous les pécheurs et pour l'assurance que tu veux nous donner que le salut est accessible à chacun d'entre nous. Nous voulons te louer, Seigneur, de ce que tu as fait pour permettre qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que tous et la vie éternelle. Donne-nous d'être assez humbles, d'être assez reconnaissant pour saisir par la foi le cadeau que tu nous donnes et pour découvrir ton amour. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui, pendant l'éternité, donneront gloire à ton nom et à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. En son nom, nous te prions. Amen.